Nous allons commencer la christologie, c'est-à-dire l'étude de la personne et de l'œuvre du Messie. Disons tout de suite que ce n'est pas un sujet facile. D'abord parce que, comme nous l'avons vu, c'est sur ce point-là que souvent se sont produites les grandes hérésies, celles que nous étudions notamment en histoire de l'Église. Et deuxièmement, pour une autre raison, parce que dans ce domaine aussi, il y a eu une occidentalisation de la foi. Et ce faisant, nous allons être amenés à suivre une méthode quelque peu, comment dirais-je, inorthodoxe. Nous serons un petit peu dans la situation de ces gens, de ces Grecs, de ces non-juifs dont il est question dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, qui étaient venus vers les disciples pour leur dire « Nous voudrions voir Jésus ». Bien sûr, Jésus, on croit le connaître. Et puis, soudain, on se rend compte, que les premiers chrétiens étaient tous des juifs, manifestement. Vous voyez en Jésus, on pourrait dire, le plus beau fleuron qu'ait jamais produit le peuple d'Israël, la plante la plus extraordinaire et la plus remarquable qui soit née de ce terreau qu'était le peuple d'Israël. Cependant, jamais, à aucun moment, ils n'ont pensé qu'il fallait couper cette plante de son environnement. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans l'Église chrétienne, notamment à partir du IIe siècle, et plus particulièrement sous l'influence de Marcion, dont nous avons eu l'occasion de parler en histoire de l'Église, ça fait déjà quelques années, alors peut-être les souvenirs sont plus très frais. Marcion, cet homme qui avait voulu complètement déjudaïser l'Évangile, qui avait opposé l'Ancien et le Nouveau Testament, qui avait opposé le Dieu vengeur et jaloux, le Dieu légaliste de l'Ancien Testament, au doux Jésus, plein de miséricorde, d'amour du Nouveau Testament. Et bien que ce Marcion ait été condamné par l'Église officielle, parce qu'il était allé trop loin dans ce domaine, le poison qui avait été le sien a continué à faire des ravages jusqu'à nos jours. Et soudain, nous nous rendrons donc compte qu'au travers du Jésus de la tradition chrétienne, eh bien, il y a plus. Nous découvrons lui, Yeshua ben David, ben Abraham, le Messie d'Israël et le Sauveur des païens. Et c'est précisément cette démarche que nous allons suivre. Il n'est pas possible de séparer Jésus de son environnement juif. Il n'est pas possible de séparer Jésus des Écritures. Et les Écritures, pour lui, pour les disciples, c'était essentiellement ce que nous appelons l'Ancien Testament. D'ailleurs, cette expression elle-même, Ancien Testament, est quelque peu piégée. Parce que, là aussi, il y a le relent de marcionisme, comme si l'Ancien Testament était quelque chose de dépassé, quelque chose qui n'avait plus rien à nous apporter aujourd'hui, remplacé qu'il est par le nouveau qui lui a été substitué. Alors que le Nouveau Testament n'est rien d'autre que la continuation de l'Ancien, l'accomplissement de l'Ancien. Et il n'y a pas rupture entre les deux réalités, mais il y a continuité. Quand il parlait aux disciples qui allaient à Emmaüs le soir de Pâques, Jésus nous dit, l'évangéliste Luc, se mit à leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et c'est donc dans ces Écritures-là qu'il nous faut d'abord rechercher qui est justement Jésus. C'est au travers d'elle que nous avons d'abord à le voir et à le découvrir. Parce que s'il n'y a pas une continuité entre les Écritures et le témoignage des apôtres dans ce que nous appelons le Nouveau Testament, alors Jésus n'est rien. Rien d'autre qu'un imposteur. Mais s'il y a vraiment continuité, s'il y a vraiment accomplissement par ce Jésus, de ce qui avait été écrit de lui par les prophètes, par Moïse, par David, alors il est vraiment le Messie d'Israël et il est vraiment la lumière des païens que nous sommes. Et c'est pourquoi dans tout ce cours de Christologie, c'est cet aspect-là que nous essaierons de souligner. Parce que dans la plupart, justement, des études christologiques qui ont été faites par les non-juifs depuis des siècles et des siècles, c'est un aspect qui a été souvent ignoré, par ignorance très souvent, mais aussi délibérément et volontairement, je dirais par anti-judaïsme. Et c'est pourquoi notre première démarche va consister à essayer de voir ce que dit de lui, justement, à la fois, je dirais, l'Écriture, encore une fois, ce que nous appelons l'Ancien Testament, et puis deuxièmement aussi, d'une certaine manière, ce que dit la tradition juive du Messie. L'idée que se faisait la tradition juive du Messie à l'époque de Jésus. Et nous allons voir que contrairement à une idée répandue très souvent, ce que Jésus a été, ce que Jésus a dit et a affirmé, bien loin de contredire ce qu'Israël attendait, eh bien s'inscrit dans la droite ligne de l'espérance d'Israël. Et qu'il y a eu, dans toute cette période que nous appelons la période intertestamentaire, une continuité, il y a eu une préparation spirituelle pour que, ainsi que le dit l'apôtre Paul, lorsque les temps soient accomplis, Dieu envoie son Fils, né d'une femme et né sous la loi. Ce sont deux termes sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, deux termes qui sont extrêmement importants. D'abord, j'aimerais que nous puissions partir d'un terme tout à fait qui semble ne pas avoir de rapport tellement avec notre propos, avec notre sujet, d'un texte que nous trouvons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, versets 16 et 17, où l'apôtre Paul dit, ce texte bien connu, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu » pour le salut de quiconque croit, pour le juif d'abord, et ensuite pour le grec, c'est-à-dire pour le non-juif. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui concerne Jésus. Justement, Jésus, né d'une femme, est né sous la loi. Pourquoi justement l'Évangile, d'où vient cette expression ? Elle vient d'un texte qu'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 57, où il nous est dit ceci, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles, de celui qui dit à Sion, voici ton Dieu règne. Le messager de bonnes nouvelles, c'est justement Jésus. C'est comme ça que les premiers chrétiens ont compris ce texte. Jésus est celui qui est venu apporter la bonne nouvelle que Dieu était celui qui régnait. Il est venu apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et l'expression évangile n'est tout simplement que la traduction grecque du mot hébreu mévasser, qu'on trouve justement dans cette expression, un mévasser, le messager de bonne nouvelle, celui dont les pieds sont rapides sur les montagnes pour apporter justement cette bonne nouvelle. Et par conséquent, l'évangile, c'est la proclamation de cette bonne nouvelle qui a été apportée par ce messager céleste qu'est Jésus. Et cette bonne nouvelle a pour fin le salut. Le salut de quiconque croit. Or, Paul ici nous dit quelque chose d'autre de tout à fait intéressant. Il nous dit l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Je pense qu'on pourrait aussi dire la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cette expression « puissance de Dieu » est souvent pour nous extrêmement banale. Puissance, la force. Nous savons que Dieu est un Dieu fort. Et ce faisant, disons bien l'Évangile, c'est cette réalité dans laquelle est enfermée cette force de Dieu qui a pour but de conduire au salut celui qui croit. En fait, c'est beaucoup plus profond que cela, cette expression, la puissance de Dieu. Paul, en tant que juif, entendait bien plus ce que nous entendons, nous, non-juifs, par l'expression puissance de Dieu. La puissance de Dieu, bien sûr, c'est lié avec le plan de Dieu. Nous avons vu dans notre première partie, le cours sur Dieu, appelle théologie, doctrine de Dieu, que la volonté de Dieu, le plan de Dieu, est le moteur de l'histoire. L'histoire, en fin de compte, se déroule selon le plan éternel de Dieu. Pas toujours, bien sûr. Exactement comme Dieu aurait voulu qu'elle se déroule, parce que Dieu respecte la liberté de ses créatures. Mais en fin de compte, en dernier ressort, Dieu conduit l'histoire pour que les buts ultimes qu'il a fixés à cette histoire s'accomplissent. Et cette histoire est surtout et d'abord l'histoire d'Israël. C'est pourquoi, dans la révélation biblique, l'histoire d'Israël tient une si grande place. Et pour exécuter cette volonté éternelle de Dieu, eh bien, Dieu utilise sa puissance. La puissance est l'instrument que Dieu utilise pour exécuter ses desseins. La puissance de Dieu façonne l'histoire, exactement comme la puissance de Dieu au commencement a créé le monde, et enfin, comme la puissance de Dieu soutient le monde créé. La puissance de Dieu n'est pas simplement une réalité qui a donné la chiquenaude initiale, comme l'affirment les savants, les philosophes. Mais la puissance de Dieu, après avoir créé le monde, le soutient. Et vous pourrez remarquer déjà ici tout de suite une petite anticipation que je fais. Quand nous lisons dans ce qui est écrit par Paul aux Colossiens concernant Jésus, nous trouvons quelque chose de tout à fait intéressant. C'est en lui, pour lui et par lui, nous dit-il, qu'ont été créées toutes choses et qu'elles subsistent. Et là déjà, on voit un petit peu ce qui se profile derrière cette notion de puissance de Dieu. Dieu, par sa puissance, tient tout dans sa main. Il y a de nombreux textes qui l'évoquent. Je pense par exemple à Exode 15, verset 3, ce que l'on appelle le cantique de la mer, après que Dieu ait ouvert les eaux de la mer Rouge devant le peuple d'Israël, le peuple transporté de joie célèbre les louanges de Dieu et déclare « Dieu est un guerrier puissant ». Et l'expression « puissance », « force de Dieu » est ici nettement soulignée. Bon, il y a de nombreux autres textes sur lesquels on pourrait s'arrêter où il est question de ce Dieu puissant, de ce Dieu fort. Ce Dieu fort qui conduit notamment Israël, qui accomplit en ce qui le concerne ses plans et ses desseins. Et c'est pourquoi, après la fermeture du canon des Écritures, que l'on appelle encore une fois l'Ancien Testament, il y a dans la littérature rabbinique, dans la tradition juive, ici un certain nombre d'éléments qui vont être fortement soulignés, notamment à partir du moment où naît l'espérance messianique et où elle se renforce. La période qui sépare l'Ancien et le Nouveau Testament est une période d'attente messianique intense. Et voilà que dans cette période d'attente messianique, il va y avoir soudain dans la tradition ce que l'on appelle des hypostases de Dieu. Hypostase, un mot grec assez barbare, que nous avons déjà rencontré en histoire d'Église, quand nous avons parlé justement notamment de la Trinité. La Trinité, le Père, le Fils et, le Saint-Esprit, nous avons dit que ce sont trois hypostases de Dieu. C'est-à-dire trois personnes divines qui ne sont pas autonomes les unes par rapport aux autres, mais qui sont liées les unes aux autres. Si je ne m'abuse, hypostase signifie personne en grec. Tu te souviens plus? Là, Catherine, il me semble que c'est quelque chose comme cela. En tout cas, ici, nous allons voir des attributs de Dieu qui vont être personnifiés dans la tradition juive. Et l'une des personnifications de Dieu, ce sera justement la puissance. La puissance de Dieu devient pratiquement une personne divine. Bon, vous savez que déjà dans la Bible, il y a, dans l'Ancien Testament, je veux dire, il y a déjà des traces d'un processus du même ordre. Par exemple, dans le livre des Proverbes, en relation avec la sagesse de Dieu. Il y a un chapitre fameux dans lequel on pourrait dire que la sagesse est hypostasiée, où la sagesse est présentée comme étant présente au commencement avec Dieu, justement à l'œuvre dans la création. Au début, quand Dieu créa toutes choses, je suis la première de ses créatures, n'est-ce pas? J'étais là quand il a placé le cercle des cieux, je jouais auprès de lui, etc. Une personnification de la sagesse. On le retrouve dans plusieurs autres textes, le livre des Proverbes, n'est-ce pas, où il dit la sagesse a bâti sa maison, elle a égorgé ses victimes, elle appelle, n'est-ce pas, que tous ceux qui veulent devenir sages viennent à moi, qu'ils apprennent de moi, etc., etc., rechercher la sagesse, enfin. Bon, la sagesse, attribut divin, est personnifiée. Et ce processus que nous trouvons dans l'Ancien Testament, nous le retrouvons avec la puissance de Dieu. Et ceci, vous savez, suit aussi un autre usage qu'on a déjà rencontré en Israël. C'était celui d'éviter de prononcer le nom de Dieu, pour ne pas prendre le nom de Dieu en vain. C'est ainsi, par exemple, que dans le Nouveau Testament, que souvent on trouve cette expression « le royaume des cieux ». Ça ne veut pas dire obligatoirement le royaume qui est dans les cieux, mais le mot « les cieux » remplace ici Dieu. Et tantôt, il y a une expression qui vient, tantôt l'autre. Le royaume de Dieu est semblable à, ou bien le royaume des cieux est semblable à. Et contrairement à ce qu'ont cru certains, il n'y a absolument aucune nuance entre les deux expressions, elles sont tout à fait synonymes. Mais on évitait d'employer l'expression « royaume de Dieu » pour ne pas prendre le nom de Dieu en vain, et ont remplacé le nom Dieu par cieux. Mais on voulait dire exactement la même chose. Et c'est pourquoi, aussi, à cette époque-là, on emploie d'autres expressions pour éviter d'employer le nom de Dieu. Quand on dit la puissance, en hébreu, ça se dit Agvoura, jusqu'à aujourd'hui. Agvoura, c'est un synonyme pour Dieu. C'est pour éviter d'employer le nom de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, on emploie cette expression Agvoura, la force, la puissance. Ça signifie tout simplement Dieu. Un autre nom qu'on employait aussi, c'était le mot Shrina. Shrina, ça vient d'une expression qui signifie demeurer, habiter. Et ça, c'est en relation avec la nuée qui représentait la présence de Dieu. Cette nuée qui reposait sur la montagne du Sinaï au moment où Dieu s'est révélé au peuple d'Israël, puis ensuite qui est venue sur le tabernacle lorsque ce dernier a été dressé. Et enfin, qui est venue dans le temple de Salomon, dans le lieu saint, lorsque Salomon a consacré au Seigneur le temple qu'il avait construit. Alors la nuée remplit le temple. Et cette nuée, qui n'est pas une vulgaire, un simple nuage, mais la manifestation tangible, sensible, concrète de la présence de Dieu au milieu de son peuple, porte le nom en hébreu de Shrina, la présence, tout simplement. Ézéchiel, dans un texte particulièrement dramatique, voit cette présence sainte prête pour un départ. Elle est là, sur un char, tiré par des êtres célestes, que sont les chérubins, qu'il décrit minutieusement dans les premiers chapitres de son livre. Il décrit également minutieusement le char sur lequel repose cette présence divine, avec des roues extraordinaires, remplies d'yeux, etc. Et Dieu lui parle, lui dit, voilà, je quitte le temple, je quitte cette demeure, et le mot demeure en hébreu, c'est la même racine, c'est Mishkan, Shrena Mishkan, c'est la même racine, je quitte cette demeure à cause du péché du peuple. Et après avoir décrit les péchés qu'il y a dans Jérusalem, le char de l'Éternel sort de la ville. Sort du temple, puis sort de la ville. Les chérubins déploient leurs ailes. Et le char de l'Éternel, qui emporte la présence divine, quitte le temple, quitte Jérusalem, gravit le mont des Oliviers, s'arrête un instant, comme à regret, un dernier regard sur la ville, et disparaît de l'autre côté. Et à la fin du livre du prophète, lorsque ce dernier reçoit la vision du temple nouveau, lorsque le temple lui a été décrit minutieusement, de nouveau, le même char de l'Éternel qui ramène la présence sainte, la Shrina, revient dans les mêmes conditions. Et la ville sainte, prend alors un nom nouveau, Yerushama, et non plus Yerushalayim, l'Éternel est ici, l'Éternel est présent. Et là, nous avons tout à fait une chose intéressante par rapport au Nouveau Testament, c'est que Jean, notamment dans le premier chapitre de son livre, de son évangile, le fameux prologue, où il est question du Logos, ce texte qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, parce que c'est un texte d'une profondeur insoupçonnée, emploie exactement ce même vocabulaire. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et il continue en disant, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Or, si l'on retraduit ce texte du grec en hébreu, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, Vatishkan betochenu, c'est le mot Shrena. Qu'est-ce que Jean nous dit dans ce texte? et nous dit la mystérieuse présence qui se trouvait sur le tabernacle, qui se trouvait dans le temple de Jérusalem, qui se trouvait sur la montagne du Sinaï, que Ézéchiel a vu partir et revenir. Cette présence mystérieuse, ce n'était autre que le Fils de Dieu éternel, la parole éternelle de Dieu, Jésus. La parole faite chair, elle a habité, comme dans le tabernacle, parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Autrement dit, encore une fois, il n'y a pas rupture entre le Jésus préexistant que l'Évangile nous présente, le Jésus éternel, le Fils éternel de Dieu, unique et éternel de Dieu. Celui, nous dira l'apôtre Paul, qui était en forme de Dieu, c'est le même dont nous trouvons déjà la trace dans l'Ancien Testament. Premièrement, il est la puissance mystérieuse de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la puissance. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Par lui et en lui, toutes choses ont été créées, dira l'apôtre Paul. Donc par cette parole de puissance de Dieu, Jésus, le Fils éternel, qui a été révélé lorsque les temps ont été accomplis, quand est venue la plénitude des temps, et cette puissance de Dieu par laquelle, ont été créées toutes choses, celles qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Deuxièmement, Jésus est cette manifestation, cette présence de Dieu qui a agi au milieu des hommes. Depuis le commencement, sur le mont Sinaï, et à différentes époques de l'histoire d'Israël, cette présence qui sera éternellement au milieu des hommes au temps de la fin, ainsi que l'avait vu le prophète Ézéchiel, quand Jérusalem, purifiée de ses péchés, s'appellera Yerushama, l'Éternel est là. Et puis, Jean ajoute un troisième terme. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire aussi, c'est une notion très importante dans le judaïsme, déjà dans l'Ancien Testament. La gloire, c'est la manifestation de ce que Dieu est. Dieu, nous dira l'apôtre Jean, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître. Et dans ce sens, le Fils unique est la gloire de Dieu. Ça veut dire, il révèle ce qu'est Dieu, il le rend visible, il le manifeste, il manifeste ce qui autrement serait invisible. Les perfections de Dieu, la bonté, la puissance, l'amour, la sainteté de Dieu, toutes choses que l'homme ne peut connaître parce qu'il ne peut voir Dieu, soudain elles sont rendues visibles au travers de celui qui est justement l'image du Dieu invisible, et qui, se faisant, devient la gloire de Dieu. Et vous avez peut-être remarqué combien la gloire de Dieu a une place prépondérante dans les évangiles, et notamment dans la vie de Jésus. Le but de la vie de Jésus, c'était de glorifier son Père. Le but de la vie de Jésus, c'était que Dieu soit réellement glorifié au milieu des hommes. Et quand il a terminé son œuvre avant la croix, il peut dire « J'ai glorifié ton nom sur la terre. J'ai glorifié ton nom. » Et maintenant, il dit « Père, glorifie encore ton nom » au moment de la croix. Quand va intervenir la manifestation suprême de la gloire de Dieu dans la mort, mais surtout dans la résurrection du Fils. Par conséquent, il y a tout un mystère qui jusqu'alors était caché et qui en Jésus va devenir visible. Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé ce qui était caché, ce qui était en gêne dans l'ancienne alliance, mais qui était encore caché dans l'ancienne alliance et qui soudain va devenir visible. Et c'est l'image du voile déchiré qui fait que soudain ce qui était caché, ce que l'on pressentait, ce qui était déjà promis, ce qui était déjà en gêne, mais qui n'était pas encore visible, va devenir visible, c'est-à-dire la manifestation de la présence de Dieu lui-même au milieu des hommes. Non plus une présence intermittente, comme c'était le cas dans l'Ancienne Alliance, mais une présence permanente, et ce n'est pas pour rien qu'un des noms du Messie, c'est Immanuel, Dieu avec nous. Et ça aussi, nous aurons l'occasion d'y revenir. Jésus lui-même s'est souvent identifié avec cette présence de Dieu. Et ainsi, nous voyons qu'il y a dans le judaïsme, qui attendait le Messie, qui l'attend encore, on pourrait dire quatre hypostases divines. La première, nous avons dit, c'est la puissance. La deuxième, c'est la sagesse, ou l'inverse, plutôt la sagesse d'abord, la puissance ensuite. Troisièmement, la gloire. Et quatrièmement, la présence. Et on peut employer ces termes jusqu'à aujourd'hui indifféremment pour désigner Dieu. Bon, la puissance. On peut parler la présence, et notamment dans la Kabbale, on fait un grand usage de cette expression, de cette hypostase, qu'est la présence. La gloire, c'est aussi une expression pour désigner Dieu. Et puis, la Shrina en particulier, elle est assimilée avec l'Esprit. L'Esprit Saint et la Shrina, c'est finalement la même chose. Et là, on voit aussi se dessiner, déjà, voyez-vous, la doctrine de la Trinité dont nous avons parlé ensemble. D'ailleurs, En hébreu, le mot esprit, c'est un mot féminin, exactement comme le mot shrina, présence. Et par conséquent, les deux choses sont assimilées. Mais encore une fois, déjà, il y a ici un processus par lequel cette présence de Dieu est hypostasiée, c'est-à-dire est personnifiée. Et en même temps, l'esprit est personnifié. Et en même temps, la puissance est personnifiée. Et là, nous voyons déjà apparaître la deuxième personne de la Trinité, le Fils. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et quand nous lisons Paul, justement, nous trouvons souvent ces expressions. Lui qui a été fait pour nous sagesse, justification et rédemption, dira-t-il. Ou encore le texte des Romains dont nous sommes partis, n'est-ce pas ? C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ou encore le fameux texte des Corinthiens, n'est-ce pas ? Les Juifs demandent des miracles, les Grecs demandent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Folie pour les uns, scandale pour les autres, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Là nous trouvons ces deux notions qui étaient familières aux Juifs de son temps. Autrement dit, pour Paul, Jésus est vraiment la personnification de ces notions que les Juifs, justement, attendaient. Vous pouvez trouver, par exemple, dans le Nouveau Testament, un certain nombre de textes aussi où on trouve ces notions, alors là, vraiment, dans une dimension totalement hypostasiée. Par exemple, le fameux texte de Simon le magicien. Vous savez, lorsque Philippe arrive dans cette ville de Samarie, il y prêche Jésus. Et là, il y avait un certain Simon magicien, dont tous les habitants de la ville disaient « Celui-ci est vraiment celui qui a la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. »